Glory to God. Nous avons compris, n'est-ce pas, que l'Église est l'Église de Dieu. Avant d'être la nôtre, il n'est la nôtre que parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et celui qui est prioritaire dans l'Église, c'est Jésus. Amen. Celui qui décide dans l'Église, c'est Jésus. Amen. Celui qui commande dans l'Église, c'est Jésus. Amen. Celui qui détermine à quoi l'Église doit ressembler, c'est Jésus. Et nos vies n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont conformes au désir du Père. Tout ce que nous pouvons chercher sur la terre ne sera jamais rien, tant que ce n'est pas quelque chose conforme au désir du Père. Glory to God. Hallelujah. Our God is so good. Our God is so good. Vous savez, être chrétien, comme on dit en anglais, is a winning proposition. C'est toujours gagnant. Il y a des gens qui sont chrétiens comme si c'était une imposition. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de vivre avec. Donc nous sommes chrétiens par choix. Nous sommes heureux de l'être. Nous sommes fiers de l'être. Nous sommes fiers de Jésus. Hallelujah. Si vous ne l'êtes pas encore, demandez la révélation. Le problème n'est pas lui, le problème c'est vous. Pour votre ignorance. Mais il y a une solution pour l'ignorance. Nous étions tous ignorants. Et la lumière de Dieu est venue dans notre ignorance. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin, la lumière de Dieu vient dans ton ignorance. Tu ne seras plus ignorant. Ah, glory to God. Dites-le à votre voisin. Il y a des gens qui se le disent à eux-mêmes. Hallelujah. God is light. In him there is no darkness. C'est extraordinaire. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Hallelujah. Nous sommes faits en son image. Nous sommes rachetés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. Mais pour que l'Église soit la lumière du monde, l'Église doit être conforme au cœur de Dieu. Nous avons commencé à nous asseoir au pied du vénérable apôtre Jean pour écouter ce que le Seigneur lui a donné pour l'Église. Jésus a inauguré l'Église avec sa mort, sa résurrection, son ascension et la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler dans l'Église, à façonner l'Église, à conduire l'Église selon le désir du Père. Glory to God. Et Jésus opère dans l'Église. Et il avait donné cette promesse avant même la naissance officielle de l'Église qu'il bâtira son Église. Et il a donné la promesse selon laquelle l'Église sera dominante sur les ténèbres. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Elle sera dominante au milieu des ténèbres et sur les ténèbres. Donc, je suis appelée à être dominante au milieu des ténèbres et sur les ténèbres, quelles que soient les circonstances. Et la défaite, ce n'est pas ce que pensent les chrétiens. La défaite, c'est le fait d'être séparé de Dieu, d'être éloigné de Dieu. C'est le fait de renier sa foi. C'est le fait de ne pas faire face aux défis de notre siècle qui viennent contre notre foi. La défaite n'est pas le fait de mourir pour sa foi. Au contraire, vous mourrez, vous êtes avec Christ. Amen. Alléluia, vous sortirez d'ici vivant. Glory to God. Et Jésus a donc révélé à l'apôtre Jean, au pied duquel nous sommes assis, sa vision pour l'Église. Et pour que nous comprenions sa vision pour l'Église, il n'a pas simplement fait 1, 2, 3, 4 principes, 1 principe, 2, 3 formules pour réussir en tant que chrétien, 3 principes pour triompher en tant que serviteur. Non, Jésus a fait quelque chose, il a donné chair à ces choses. Il leur a donné chair. De la même façon que lorsqu'il était sur la terre, il racontait des histoires pour donner chair à des principes pour que les gens les saisissent. Cette fois aussi, il a donné chair à ce qu'il voulait dire. Il n'a pas listé les principes, mais il a parlé de cas spécifiques. Et le fait qu'il ait parlé de cas spécifiques ne veut pas dire qu'il isole ces églises pour dire voilà ces gens-là. Ils sont comme ça. Et nous, nous regardons, ah ouais, Seigneur. Ah, ils n'ont pas d'amour. Ah oui, mais ils sont terribles. Non, il prend ces cas spécifiques comme illustration de ses principes pour que nous puissions les saisir, que ce soit concret pour nous. Est-ce que vous me suivez? Mais ce sont des lettres qui nous sont adressées à tous, à l'Église, dans toutes les générations et à chaque enfant de Dieu. Et comme j'ai eu à dire à quelqu'un quand ils sont venus nous dire qu'ils voulaient intégrer Abba House, je lui ai dit, vous savez, à Abba House, on ne travaille pas sur le perfectionnement d'autrui, on travaille sur le perfectionnement de soi. Et tous ceux qui sont venus ici en voulant travailler sur la perfection d'autrui n'ont pas duré longtemps. Parce que ce que Jésus nous montre ici, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles, plutôt, entende. Il n'a pas dit, entends pour ton voisin, il dit, entends pour toi-même. Alléluia, nous voulons entendre pour nous-mêmes. Il est important de nous sentir interpellés personnellement par la parole de Dieu. Qui se sent interpellé par la parole de Dieu? Glory to God, vous êtes encore tous réveillés. Thank you, Jesus. Et donc, vers la fin du premier siècle, Jésus révèle à l'apôtre Jean sa vision pour l'Église. Et pour lui montrer sa vision pour l'Église, il lui a donné une vision de lui-même. Et cette vision de lui-même a été quelque chose de très choquant pour cet apôtre qui était très proche du Seigneur. Il l'a vu dans sa gloire. Et il est important que même si nous contemplons Jésus dans son humanité, dans les évangiles, nous puissions aussi le voir dans sa gloire. Et le voyant dans sa gloire, comprendre la dimension, la puissance, la grandeur et la majesté de celui que nous servons. Et celui à qui appartient l'Église. Et quand je comprends la dimension et la majesté de celui à qui appartient l'Église, mon attitude envers l'Église est totalement différente. Alléluia. C'est un peu comme lorsque les gens vont chez quelqu'un. Quand vous allez chez Flo Flo, vous allez jeter vos pantoufles partout. Votre manteau partout si c'est une copine, n'est-ce pas? Mais quand vous allez chez le patron de Flo Flo, vous allez venir, vous allez vous mettre où on vous dit de vous mettre, vous gardez vos pantoufles et surtout votre manteau. Et vous n'enlevez que si on vous demande de l'enlever, vous posez là où on vous demande de le poser, vous traitez le lieu avec soin à cause du respect que vous avez pour son patron. Lorsque nous voyons la gloire de Jésus, nous avons du respect pour Jésus. Et quand nous avons du respect pour Jésus, nous avons du respect pour son Église. C'est la première chose qui doit revenir dans le cœur des chrétiens, du respect pour l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une institution, je parle de la communauté, les frères et sœurs. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 2, au verset 18. Jusque-là, nous avons contemplé la vision de Jésus pour l'Église à travers l'Église d'Éphèse, à travers l'Église de Smyrne, à travers l'Église de Pergame. Nous avons compris que l'Église doit être à cheval sur la parole de Dieu, la saine doctrine, doit être remplie d'amour, une Église qui a une dévotion totale envers Dieu. L'Église doit être disposée à souffrir pour l'Évangile. J'en parlais avec une petite de 13 ans hier, je l'ai encouragée à souffrir pour Jésus. Ce n'est pas trop tôt pour leur dire. Alléluia! Elle voulait inviter une amie à un groupe biblique et cette amie est d'une autre religion. Elle m'a dit, est-ce que je dois l'inviter parce que ses parents peuvent ne pas être d'accord? Je dis, oui, tu l'invites. Mais tu lui dis de quoi il s'agit? Il ne faut pas l'inviter subrepticement et après dire, enfin, de Jésus, ça ne te gêne pas? Non. Tu dis de quoi il s'agit. Et si ça te cause des problèmes, ce n'est pas trop tôt pour commencer à souffrir pour Jésus. Alléluia. Nous avons appris à travers l'Église de Pergame qu'il est important d'éviter le compromis. Et ici, nous sommes en train de contempler au pied de l'apôtre Jean ce que Jésus a dit à l'Église de Thyatire. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, je vous demande d'attacher vos ceintures. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ça, c'est la lettre la plus longue. Et elle est envoyée à une église. Nous allons continuer la lettre plus tard, ne vous inquiétez pas. Elle est envoyée à une église dans une ville moyenne. Une ville qui n'avait pas la grandeur ni la dimension d'Éphèse, ni de Smyrne, ni de Pergame. Mais une ville commerçante. Et une ville qui n'était pas non plus en siège, comme nous avons vu à Pergame, du culte des Césars, ni du culte des idoles en particulier. Il y avait bien sûr leur culte, mais ce n'était pas la même dimension, n'est-ce pas, qu'à Pergame. Jésus a parlé de Pergame, disant que c'est là où le Satan a son trône. Il faut le faire. Mais c'est une ville commerçante, c'est une ville qui aussi était sur le chemin de Pergame. Et donc, il y avait une garnison romaine pour barrer la route, en quelque sorte, pour les envahisseurs qui allaient essayer d'atteindre Pergame. Une ville très commerçante. Et il y a très peu de choses de dites sur l'église de Thyatire, quasiment rien à part ici, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas comme Éphèse, où il y avait une lettre carrément écrite à l'église d'Éphèse, ni comme Colosse. Mais ce que nous savons, nous connaissons une personne de l'église de Thyatire, Vous connaissez une personne de Thyatire. Vous vous souvenez dans le livre des Actes, il y a un moment donné où l'apôtre Paul voulait aller en Asie. Lorsqu'il est question d'Asie, il s'agit de l'Asie proconsulaire, en réalité, la région où il y a toutes ces églises auxquelles Jésus envoie la lettre, avant que l'évangile n'arrive dans ces endroits. À un moment donné, l'apôtre Paul voulait y aller. Et il a dit que l'Esprit de Dieu le lui a interdit. N'est-ce pas? Juste un petit aparté, fais confiance au Seigneur. Il y a des choses que vous voulez faire et vous dites, il faut que je le fasse maintenant. Et Dieu dit, non, tu ne le feras pas. Et souvent, nous insistons quand même pour les faire parce que nous sommes persuadés qu'il faut le faire. Dieu a un temps pour chaque chose. Et Dieu ne voulait pas que l'apôtre Paul aille en Asie en ce moment-là. Cette partie de l'Asie en ce moment-là. Et l'Esprit de Dieu lui a interdit d'y aller. Mais des années après, il y est allé. Des années après, Jésus a utilisé ces 7 églises d'Asie comme représentatives de son église. Dieu a une vision à long terme. Et il aurait pu penser, mais Dieu ne veut pas que l'évangile aille dans cette partie de l'Asie. Non, Dieu le voulait. Et il savait même que des dizaines d'années plus tard, il allait envoyer une lettre à ces églises qui n'existaient pas encore à l'époque. Il a interdit à l'apôtre Paul d'y aller. L'apôtre Paul, il a continué sur son chemin. Et ensuite, il a eu une vision d'un homme de la Macédoine. Vous vous souvenez maintenant qu'il l'a invité, qu'il a dit, viens en Macédoine pour nous secourir. Et il a compris dans son rêve, il a compris que Dieu voulait qu'il emmène l'évangile en Macédoine. Et c'est comme ça, comme nous le disons constamment, que l'évangile est arrivé en Europe. Alléluia, un peu de joie. Que l'évangile est arrivé en Europe, il est allé à Philippe, qui était la première ville de la Macédoine. Et la parole de Dieu vous dit, je veux que vous sachiez que vous connaissez quelqu'un de Thyatire. La parole de Dieu nous a dit, quand il est arrivé, il est allé dans un lieu de prière, près d'une rivière. Et dans ce lieu de prière, il y avait des femmes qui étaient assemblées, que Dieu bénisse les femmes, qui étaient des prosélytes, des femmes qui adoraient Dieu. Et parmi ces femmes, une des premières personnes à donner sa vie au Seigneur était une femme qui s'appelait Lydie. La parole de Dieu nous dit que Lydie était de Thyatire. Et Lydie était marchande de pourpre, une femme d'affaires. Et effectivement, Thyatire est connue, était célèbre pour ses teintures, était célèbre comme ville commerçante pour la vente de pourpre. Et c'était quelque chose répandu dans toute la province, mais Thyatire en particulier était connue pour cela. Très, très connue pour cela. Et Lydie a donc été convertie, elle a été baptisée, elle a ouvert sa maison. Dès sa conversion, elle a ouvert sa maison, elle a invité l'apôtre Paul à venir chez elle, elle a offert l'hospitalité aux serviteurs de Dieu. Glory to God. Et certains supposent dans l'histoire qu'elle a dû avoir un rôle à jouer dans la conversion des personnes dans sa ville, mais nous n'en savons strictement rien. Je voulais simplement que vous connaissiez quelqu'un de Thyatire. Donc, il était une ville très commerçante et où il y avait beaucoup d'artisans également. Ce qui caractérisait Thyatire, pour que vous compreniez la situation de l'Église dans cette ville et ce que Jésus va leur dire. Ce qui caractérisait Thyatire aussi, c'est qu'il y avait des collectifs d'artisans, un peu comme des syndicats. Et pour exercer dans cette ville, il fallait faire partie de ce genre de collectif. Il y a des collectifs de maçons, des collectifs d'orfèvres et toutes sortes d'œuvres qui y étaient. Les gens devaient y participer pour pouvoir exercer leur métier. Mais y participer n'était pas anodin. Et cela a quelque chose à voir avec le message que Jésus adresse à cette église. Et nous commençons à voir aussi dans notre situation, dans notre contexte, comment cela s'applique à nous sur le plan professionnel. Qu'est-ce que Jésus dit de bon de l'église de Thyatire? Ce qu'il dit en réalité de l'église de Thyatire est absolument merveilleux. Ce qu'il dit de bon est merveilleux. Il reconnaît leur amour. Alors, la grande église d'Éphèse, à laquelle une lettre entière a été écrite, une des lettres les plus merveilleuses de la Bible, la grande église d'Éphèse a eu cette réprimande du Seigneur, le manque d'amour. Mais dans l'église de Thyatire, Jésus a approuvé leur amour. Et quand nous savons que l'amour est la vertu majeure du christianisme, on définit Dieu en disant Dieu est amour. Et comme je dis toujours, l'amour n'est pas Dieu. Et je dis toujours que l'amour n'est pas Dieu parce que les gens qui ne croient pas en Dieu vont vous dire, mais ce n'est pas grave, tant qu'on aime, moi j'aime. Pour moi, c'est, ce qui compte, c'est aimer les gens. Aimer les gens n'est pas suffisant. D'ailleurs, on ne peut pas réellement aimer sans avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que l'amour humain est très, très, très égoïste. Il arrive, il y a toujours une limite à notre amour. Nous avons besoin de l'amour de Dieu qui nous permet d'aller au-delà de l'amour humain. Et donc, l'amour est la vertu principale. L'amour pour les hommes, mais aussi l'amour pour Dieu. Cet attachement à Dieu, cet engagement envers Dieu, cette adoration de Dieu. Et Jésus note l'amour de cette église. Mais avant d'y aller, j'ai failli oublier quelque chose. Je reviens en arrière. Comment est-ce que Jésus se présente à l'église de Thyatire? Jésus se présente. Nous avons dit que la manière dont il se présente a une importance capitale. N'est-ce pas? Comment est-ce que c'est Jésus se présente? Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Si vous avez lu toutes les lettres, vous allez voir que c'est la seule fois où il se présente en disant, je suis. Toutes les autres fois, il donne un qualificatif. Voici ce que dit celui qui marche au milieu des sept chandeliers, par exemple. Ici, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Et ensuite, il continue, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Quelle image est-ce qu'il veut communiquer à cette église? Quelle image est-ce qu'il veut nous communiquer de sa personne pour que nous saisissions le message qu'il est en train de nous envoyer? D'abord, il communique l'image de son autorité. Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a la nature de Dieu. En réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est voici ce que vous dit Dieu lui-même. La nature de Dieu, les prérogatives de Dieu, les capacités divines. Il marque son autorité. Il marque sa puissance. Et il leur dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Nous voyons ici et là dans la parole de Dieu cette image des yeux comme une flamme de feu qui montre la capacité de Dieu à tout voir. Deux choses. D'abord, la vision illimitée de Dieu. Celui qui voit absolument tout. Quand je regarde cette belle femme devant moi, je vois ses lunettes. Je vois ses cheveux stylés. Et je vois son ensemble, n'est-ce pas? Je peux la décrire physiquement, mais il y a des choses que je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et ce que Jésus dit ici, je suis celui qui voit tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vois vos cœurs, je vois vos motivations, je vois vos pensées. Il ne voit pas que les gestes ou les actions. Il voit ce qui est derrière les gestes, ce qui est derrière les actions. Il voit ce que nous prévoyons pour demain et pour le lendemain, pour le surlendemain. Celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Dans Jérémie 11, 18, Jérémie est dans une situation. Vous connaissez le prophète Jérémie, que nous aimons bien ici. Cet homme tellement incompris dans sa génération. Vous êtes en bonne compagnie si vous vous sentez incompris autour de vous, parce que vous êtes chrétien. Et Jérémie était tellement incompris que les hommes de sa ville avaient décidé de l'attaquer. Et lui il vivait avec eux en disant la vérité, tout ce que Dieu lui disait de dire, et il n'était pas content. Donc, ils avaient prévu des choses contre lui et lui n'en savait strictement rien. Donc, Jérémie disait que lui n'en savait strictement rien. Mais il dit, l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. Dieu voit tout. Et il veut que nous comprenions qu'il voit tout. Lorsque nous allons prier, nous venons avec Dieu, nous nous excusons devant le Seigneur. Nous nous justifions devant le Seigneur. Nous lui disons, mais tu comprends Seigneur, c'est comme ça. Non, ce n'est vraiment pas nécessaire parce qu'il voit tout. Absolument tout. Et c'est important que cela pénètre nos cœurs, que dans notre manière d'être, de fonctionner, nous soyons conscients du fait que Jésus a des yeux comme une flamme de feu. Il voit absolument tout. Et Jérémie dit au verset 20, mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Nous allons voir cette expression un peu plus tard, que Jésus dit de lui-même. Jérémie dit, il sonde les reins et les cœurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va prendre vos reins, il va les ausculter. Est-ce que c'est malade? Non, non, non. C'est une expression hébreu pour dire, il sonde les profondeurs de l'être. Les profondeurs de l'être. Il te sonde. Alléluia. Et aussi, les flammes de feu aussi montrent la colère. Et nous allons voir pourquoi Jésus est en colère. Mais d'abord, avant de parler de colère, il y a aussi les pieds comme de l'airain ardent. L'airain ardent dans la parole de Dieu est toujours le symbole de jugement. Glory to God. Il se passe des choses ici. Mais pour commencer, Jésus leur parle de leurs œuvres. Je connais tes œuvres. Et comme nous avons dit dans une étude biblique ici, quand on entend Jésus dire cela, ça peut ou nous rassurer ou nous effrayer, selon ce que sont nos œuvres. Glory to God. Mais ça doit toujours nous encourager pour savoir que rien de ce que l'on est et que l'on fait pour le Seigneur n'est perdu. Jésus voit. Alléluia. Jésus voit. Glory to God. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, waouh! Les éloges de Jésus envers cette église sont admirables. Moi, je veux que Jésus me dise, je connais tes œuvres, je connais ton amour, wouh, je connais ta foi, yes! Tu es ton fidèle service, alléluia! Ta constance, tu ne lâches pas! Tu es toujours en train de faire du bien, tu es toujours en train de me servir, tu es toujours en train de m'adorer. Tu ne lâches pas, tu es là. Here today and gone tomorrow. Il y a des gens qui sont comme ça. Aujourd'hui, ils sont là, j'aime Jésus. Deux semaines après, ils sont où? Je ne sais pas si j'aime Jésus finalement. Mais ça fait 10 ans que tu es converti, tu devrais savoir maintenant si tu aimes Jésus. Ce n'est pas toi. Ta constance, dites constance. Ça, c'est une vertu que nous avons besoin d'acquérir, la constance. La foi, quand il parle de foi ici, la question de fidélité. Pas uniquement le fait qu'ils ont confiance en Dieu, mais leur fidélité. De loyauté. Imaginez une église comme cela, tous ces gens qui sont remplis d'amour, qui aiment Dieu et qui s'aiment. La loyauté. La constance et le fidèle service qui s'aiment et qui servent Dieu ensemble et qui se servent mutuellement. Et quand notre Lituanienne ici a besoin de quelque chose, notre Antillaise ici présente répond présent et court pour porter du secours. Et quand elle a besoin de servir le Seigneur dans un domaine, il y a toujours trois personnes qui se portent volontaires pour dire « c'est pour le Seigneur, on va y aller ». Imaginez une église comme celle-là, beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté, beaucoup de service, la constance. Glory to God! Et ils sortent évangéliser, parler de Jésus, et ce n'est pas deux personnes sur une église de 500, c'est 499. Glory to God! Pour que Jésus approuve leur service, devait y avoir quelque chose. Parce que quand il parle de service, il parle en fait du mot ministère, le fait de secourir, de servir, d'apporter de l'aide, d'être disponible, de se donner. Nous savons que Jésus n'a pas l'admiration facile. Se donner. Est-ce qu'il dira, je connais ton fidèle service? Demandez à votre voisin, est-ce que si Jésus venait aujourd'hui te demander, il dira, je connais ton fidèle service? Parce que nous ne voulons surtout pas pointer du doigt, n'est-ce pas, l'église de Thyatire. Nous voulons nous ausculter à la lumière de la parole de Dieu. Et je vous assure, si davantage de chrétiens essayaient de s'ausculter à la lumière de la parole de Dieu, ils seront beaucoup moins critiques envers les autres. C'est pour cela que Jésus nous exhorte à enlever la poutre qui est dans notre œil, avant d'enlever la paille qui est dans l'autre. J'ai toujours été fascinée par le fait que Jésus n'a pas dit enlève de la paille qui est dans ton œil, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Non, la poutre qui est dans ton œil. Parce que quelque chose que tu vois dans l'autre, il y a pire chez toi, que tu ne vois pas, n'est-ce pas? Mais que tu devrais essayer de voir. Ah, God is so good. Jesus is wonderful. Et si nous faisons cela à chacun de nous, quel amour! Parce que finalement, je vais regarder Auréa, je vais la trouver merveilleuse en comparaison avec ce que je viens de voir en moi-même. La paille que je vois dans son œil sera vraiment rien. Oh, elle n'est pas parfaite, mais quand même, tu vois, elle est. Et Jésus trouve du bien à dire de cette église. Et nous allons voir à quel point c'est quelque chose de remarquable. Dans leur service collectif, dans leur générosité, dans leur amour, la constance, upomene, le fait de tenir au milieu de la pression, ne pas être là quand c'est simple et quand c'est facile et quand tout est agréable et quand tout le monde nous trouve magnifique, quand personne ne nous reprend. Ta constance. Et il dit, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans cette église? C'est une église qui est en train de se bonifier pour ce qui est des œuvres et le service. C'est pas, oui, mais moi, avant, je servais beaucoup, je faisais ceci, je faisais cela. Après, j'ai vu que non, finalement, non, moi aussi, j'ai ma vie. Le nombre de chrétiens calcifiés que l'on rencontre au bout de quelques dizaines d'années dans la foi. Ah oui, mais moi aussi, avant, quand ils voient quelqu'un qui est nouvellement converti, qui est zélé, est-ce que je peux faire quelque chose, je peux aider? Moi aussi, j'étais comme ça au début. Ils regardent avec dédain, au lieu d'avoir honte. Ils regardent la personne avec dédain. Ah oui, mais la nouvelle convertie. Mais bon, on est tous passés par là. Déjà, on est passé à des choses meilleures, à de l'oisiveté spirituelle. Non, nous devons toujours avoir l'empressement de servir, l'empressement de faire constamment mieux, l'empressement d'apporter notre pierre à l'édification du corps de Christ. L'empressement, la disponibilité, nous rendre disponibles. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour le Seigneur, je suis là. C'est pour l'Église, je suis là. Parce que l'Église est l'Église de Jésus. Glory to God. Hallelujah. Et pas au début ou 2 ans après, 5 ans après, mais jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. 20 ans de vie chrétienne et toujours autant d'empressement à servir. 25 ans de vie chrétienne et toujours autant d'enthousiasme à se donner. Hallelujah. C'est possible. La calcification n'est pas une fatalité.
Amen.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Amen.
Glory to God. Et pour ceux qui sont nouvellement convertis, s'il y a des vieux chrétiens ici, mais pas à Bahas, voyons. Mais si jamais vous tombez sur des vieux chrétiens qui vous disent, oui, nous aussi, moi aussi, avant, j'étais comme ça, tu vas voir, tu vas apprendre. Non, ignorez-les, priez pour eux.
Amen.
Dites, ils sont calcifiés. Ils sont devenus des fossiles dans la maison de Dieu. Seigneur, réveille-les! Secoue-les, mets le feu!
Amen.
Qu'est-ce qu'en fait, c'est tous ces glaciers? Mets le feu!
Amen.
Décalcifie-les! Amen. Glory to God. Jésus est toujours merveilleux. Après 20 ans de conversion, il est toujours merveilleux. Après 30 ans de conversion, il est toujours merveilleux. Et on doit grandir dans les œuvres.
Amen.
Hallelujah. Grandir.
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 Grandir. Glory to God. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time. Il est bon all the time. Pas uniquement au début de ma conversion. Nous grandissons. Et en tant qu'Église, on doit grandir dans les œuvres. On doit grandir, on doit grandir, on doit grandir, on doit grandir, on doit grandir. Cette année, on commence à nourrir les veuves. L'année prochaine, on ajoute les orphelins. Et l'année suivante, on ajoute les jeunes. Et l'année suivante, on grandit dans nos services, dans les bonnes œuvres. Oui, avant, on avait beaucoup de ministères. Mais bon, non, maintenant, l'Église se concentre un peu sur l'enseignement des chrétiens. Ouh! Quand on n'est que concentré sur l'enseignement des chrétiens, on est vite calcifié. Nous abondons dans les bonnes œuvres. Voilà les bonnes choses que le Seigneur dit de cette Église. Et si le Seigneur dit ces choses, et s'il approuve ces choses, c'est parce que cela fait partie de sa vision de l'Église. N'est-ce pas? Et cette Église de Thyatire ont ces choses-là, correspond à cette vision de l'Église. Donc il y a le progrès qui doit exister dans nos vies. Dites progrès.
Progrès.
Devons être en progression. Alléluia. C'est Alexander McLaren qui dit ceci. Si les chrétiens ne s'améliorent pas chaque jour, c'est qu'ils sont pires chaque jour. Je vous le lis en anglais. Au cas où vous ne faites pas confiance à ma traduction. And so, if Christian people are not daily getting better, they are daily getting worse. Il n'y a pas d'état statique. Rester statique, c'est s'empirer. N'est-ce pas? We're getting better. We're getting better. We're getting better, 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 getting better. We're getting better. We're getting better. We're getting better. Getting better, 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 getting better. Getting better. Getting better. Are you getting better? Are you getting better? Getting better, 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 getting better. I'm getting better. How? I'm getting better. Hey! Better, 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 better. I'm getting better. Yes, I'm getting better chaque jour. Sauf que tout n'est pas rose. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette église? Et ça doit nous encourager. Je confiance qu'à partir de maintenant, quand un responsable, un pasteur pointe de doigt quelque chose que vous devrez changer, vous allez cesser de... Oui. Oui, pasteur. Merci, pasteur. Merci. Merci, pasteur. Si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé dans cette église, il ne me reverra pas. Alléluia. Non, le fait que nous mettons le doigt sur quelque chose qui ne va pas, c'est pour que nous puissions nous améliorer. Si on ne met jamais le doigt sur quelque chose qui ne va pas, c'est que l'on ne va jamais s'améliorer. Jésus dit ce qui est bon et après il met le doigt sur ce qui ne va pas. Ça te parle? God is good! Mais ce qu'il dit ici est très grave. Et c'est une grande leçon pour nous. Je suis même émerveillée de ce qui se soit donné la peine de dire ce qu'il a dit au départ, compte tenu de ce qui ne va pas dans cette église. Quelle grâce de Dieu! Quelle grâce de Dieu! C'est la raison pour laquelle la prochaine fois que tu veux reprendre, Grâce te commence en lui disant qu'elle a de beaux yeux. Et après, tu ajoutes le reste. Je plaisante. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette église? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Et pourquoi c'est grave? Pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moi qui ne se repente de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises toutes les églises, y compris Abba House, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera comme une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette lettre est la plus longue qui est écrite de toutes les lettres écrites aux églises. Et nous voyons ici une situation qui est très grave. D'abord, nous avons l'image d'une église qui est remplie de foi, une église où les gens s'aiment, les gens aiment Dieu, beaucoup de services, beaucoup de fidélité. Et on peut très bien imaginer cette église remplie d'énergie. Et le genre d'endroit où vous allez, vous dites, waouh, c'est super ici. Et ils arrivent, waouh, c'est mon frère, ma soeur, alléluia, Dieu est bon, hey, on va louer le Seigneur. Et tout le monde est content, c'est super, super église, super ambiance. Mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. C'est très important pour nous de ne jamais juger une église. Nous ne sommes pas censés juger les églises d'ailleurs. Ne jamais évaluer une église sur la base simplement de l'apparence extérieure. Parce qu'ils aiment chanter, parce qu'ils sont tous remplis de joie, ils sont tous contents. Et parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils ont une super chorale. Parce qu'il y a une fille qui a une chemise jaune et quand elle chante. Et nous avons beaucoup d'églises qui sont comme ça aujourd'hui. Toute cette apparence de « waouh, super, on s'aime, on aime Jésus, alléluia !» Mais il y a des choses qui ne vont pas. Et Jésus leur dit « mais qu'est-ce qui ne va pas ici ?» Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Nous avons vu que dans l'église de Pergame, Jésus a parlé du fait qu'ils acceptaient une certaine doctrine, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, et que cela entraînait les gens dans le compromis. Ici, les choses sont pires encore. C'est comme au fur et à mesure que l'on avance, il y a une progression dans la pourriture. Ici, les choses sont pires encore, parce qu'ici, il dit, vous, tu laisses. Et dans certaines traductions, il parle du fait, tu tolères. On laisse faire. Et on laisse faire quoi? Il y a un individu, ici, qui se dit prophétesse. Et si Jésus dit que sa personne se dit prophétesse, ça veut dire que c'est une personne qui a beaucoup d'influence au sein de cette église. Ça veut dire que cette personne est reconnue au sein de cette église comme leader, comme responsable. Mais c'est une personne qui n'est pas reconnue par Jésus comme responsable et comme prophétesse. Jésus ne la reconnaît pas, les responsables la reconnaissent et la laissent faire. Tout en voyant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais la laissent faire. Et je veux encourager les dames, ce n'a rien contre les femmes. Dans l'église au Pergame, on a parlé de Balaam aussi, la doctrine de Balaam, mais Balaam n'était pas une femme. C'est à cause des femmes. Non, rassurez-vous. Il y a des vraies prophétesses dans la parole de Dieu. Qui est-ce qui en connaît?
Déborah,
une vraie prophétesse qui a connu le peuple de Dieu. Anne, une vraie prophétesse qui a reconnu le bébé Jésus. Il fallait être prophétesse pour reconnaître un bébé. Comme le sauveur annoncé. Parce que même adulte, il y a des gens qui ne l'ont pas reconnu. Des gens religieux, d'ailleurs, qui ne l'ont pas reconnu. Il y avait les filles de Philippe dans le Nouveau Testament qui prophétisaient. Quatre filles de Philippe. Quelle grâce dans cette famille. Les quatre prophétisaient. Il y avait aussi une femme qui s'appelait Hulda dans l'Ancien Testament aussi qui prophétisait, qui était prophétesse. Donc, ce n'est pas le fait d'être prophétesse qui pose problème, c'est le fait qu'elle a usurpé ce rôle et qu'elle ne l'était pas. Mais elle a commencé à exercer comme elle a été reconnue et on lui a laissé carte blanche, elle a commencé à agir au sein de l'Église. Le problème, c'est que ce qu'elle faisait était contraire à la parole de Dieu et entraînait les gens dans le péché. Et c'est allé vraiment très loin, parce que Jésus a parlé des profondeurs de Satan. Vous vous souvenez? Précédemment, pour l'église de Smyrne, il a parlé de synagogue de Satan. Ici, il parle des profondeurs de Satan. C'est quand réellement c'est allé très loin. Dans l'église de Pergame, il a parlé du trône de Satan. Le problème, c'est que le trône de Satan et la synagogue de Satan, c'était à l'extérieur de l'église locale, n'est-ce pas? Mais là, c'est à l'intérieur. Et quand la pourriture vient carrément à l'intérieur de l'église. On a dit la semaine dernière que quand le diable ne peut pas détruire de l'extérieur, par la persécution, il détruit de l'intérieur. Et il va venir sur des individus au sein de l'Église qu'il va utiliser comme son agent pour affaiblir l'Église, pour amener de fausses doctrines, pour entraîner les gens dans le péché, dans le compromis. Et ici, dans cette Église, malheureusement, c'est allé très loin. Et ils l'ont toléré. Et parfois, dans l'Église, nous tolérons les choses parce que nous aimons les gens et nous ne voulons pas les blesser. Parfois, nous tolérons les choses parce que nous manquons de discernement spirituel. Oh, on aime tout le monde, mais on n'entend pas l'Esprit dire ça, ce n'est pas bon et ça, il faut l'arrêter. Parfois, nous tolérons les choses parce que les responsables sont faibles et n'ont pas d'autorité, ils ne veulent pas exercer l'autorité parce qu'ils ne veulent pas vexer les gens, ne veulent pas que les gens s'en aillent, donc ils vont tolérer des choses. On dit, oh, c'est pas grave. Nous tolérons les choses parce que nous n'avons pas de fibre morale. On aime Jésus, mais bon... C'est comme ça, c'est difficile maintenant pour les gens de vraiment marcher dans la sainteté. Ce qui compte, c'est de les aimer, de prier pour eux. C'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui dans l'Église. Et Jésus a des mots très durs pour ces personnes, à commencer par le nom qu'il donne à leur leader, à leur chef. Et il appelle la personne Jézabel. Vous savez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Judas? Judas, le traître. Hein? Vous connaissez quelqu'un qui a ce nom? C'est Jude en français? C'est pas Jude qui a trahi Jésus? Pourquoi tu dis Jude? C'est Jude qui a trahi Jésus? C'est Judas qui a trahi Jésus. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça? Qui a trahi Jésus? Tu connais quelqu'un qui s'appelle comme ça? Mais non, pas Judas, le traître. Oui, pas le traître. Il y a une différence entre les deux noms. La tribu de Judas et le traître Judas, avec la S. Il y a des noms qui sont devenus infâmes. Jézabel est un nom qui est devenu infâme. Et quand Jésus appelle cette personne Jézabel, d'ailleurs certains estiment que ça peut être un homme ou une femme, mais simplement parce que Jézabel était une femme, c'est une figure pour dire une personne qui pour moi est un Jézabel, une Jézabel. Et c'est important pour nous de voir qui est Jézabel. Vous connaissez Jézabel? Et malheureusement, souvent, nous oublions qui est Jézabel, parce que dans l'Église, si vous êtes chrétien depuis des années, vous aurez dû entendre beaucoup l'esprit de Jézabel. Dès que quelqu'un dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, c'est un esprit de Jézabel. Et on utilise cela pour excorier les gens, pour maudire les gens, et on s'éloigne de la vérité de ce que c'est. Il y a des enseignements, de longs enseignements sur l'esprit de Jézabel. Et surtout quand il y a une femme qui a une forte personnalité. Ouh, c'est l'esprit de Jézabel. On utilise ça pour écraser les femmes dans l'église. Elles se taisent, elles ne disent rien. Parce que si jamais elles ont une opinion, c'est un esprit de Jézabel. Glory to God. Il y a aussi des livres qui ont été écrits sur les orbes Jézabel. Ah, God help us. Jézabel est un personnage historique. Et pour comprendre réellement ce qui se passe dans cette église, c'est important de savoir que Jézabel était une femme qui s'est mariée avec Akab, un roi d'Israël, après la séparation d'Israël et de Juda. D'accord? Vous me suivez? Le royaume d'Israël a été scindé en deux après la mort de Salomon. Et d'un côté, vous avez les 10 tribus Israël qui ont gardé le nom Israël, et les 2 tribus restaient fidèles à la maison de David, Juda. Alléluia. Et dans ce cas précis, Akab était le roi du royaume du Nord, donc le royaume d'Israël, les 10 tribus. Il a épousé une femme d'origine étrangère, dont le père était prêtre d'Ashtaroth, et qui a accédé au pouvoir en assassinant son prédécesseur. Déjà, vous voyez que la lignée est un peu douteuse. Et cette femme, donc, était une païenne, elle adorait des idoles, et elle est venue en Israël en apportant ses idoles. Et elle a amené une prolifération de l'idolâtrie en Israël. Une prolifération incroyable. Elle a rempli la nation d'idoles, le culte d'Ashtoreth, le culte des Baals. Il y avait à peu près 450 prêtres de Baal. Elle a fait construire des temples et des lieux de culte ici et là. Il y avait des sacrifices, il y avait aussi des rites. Païenne. Et ces rites impliquaient toujours des choses immorales, comme nous voyons par exemple dans certaines de ces villes, et cela date de très longtemps. Elle a rempli Israël d'idolâtrie. Elle a eu d'ailleurs Marie à partir avec le prophète Élie. Exactement. Vous vous souvenez certainement de l'époque ou de la période où Élie avait décrété qu'il n'y aura pas de pluie, sauf à sa parole, pendant 3 ans. Élie a disparu de la circulation, Dieu l'a caché, et Dieu s'est occupé de lui, et le roi Achab était désespéré. Désespéré parce qu'il n'y avait pas de pluie, il a envoyé partout chercher Élie. Finalement, Dieu a dit à Élie d'aller se présenter, Élie s'est présenté, et il a demandé une confrontation avec les prêtres de Baal et les autres prêtres païens. Il y a eu une confrontation et lors de cette confrontation, il fallait que le Dieu qui était véritable fasse descendre le feu pour consumer le sacrifice. Ils ont présenté les sacrifices et l'Éternel a fait descendre le feu pour consumer le sacrifice. Et les prêtres de Baal ont tout fait pour que leur Dieu fasse descendre le feu. Ils n'ont pas pu y arriver, se sont coupés dans tous les sens, enfin toutes les choses bizarres pour implorer leur Dieu. Et Élie se moquait d'eux. Allez, criez plus fort, peut-être qu'il dort, criez plus fort, peut-être qu'il est parti en voyage, et ainsi de suite. Et cette confrontation s'est achevée par la déclaration de la souveraineté de Yahweh. N'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur des confrontations. Nous avons besoin d'un peu plus de force dans notre génération. Les chrétiens sont trop mous. Oui, bon, tu sais, non, on ne veut pas. Non, parfois, il faut une confrontation de puissance. Alléluia. Sauf qu'à la fin de cette confrontation, Élie a reçu une menace de Jézabel. Élie venait de faire face à plus de 400 prophètes de Baal. Il venait de faire face au roi Achab. Mais quand Jézabel l'a menacé, il a pris peur. Quand vous voyez la dimension démoniaque qui opérait à travers cette femme. Et il s'est enfui. Il a dit, tu es où? Qu'est-ce que tu fais ici? Glory to God. Hallelujah. Simplement pour que nous comprenions que Jézabel était une femme extrêmement méchante. Mais une personne d'une grande méchanceté. Est vraiment un outil du diable et qui a amené la destruction en Israël. Et Israël n'a jamais récupéré de cet épisode avec Achab et Jézabel. D'ailleurs, quand vous lisez, si vous lisez par exemple Ézéchiel 23, vous allez voir une description imagée d'Israël et de Juda qui sont présentées comme deux femmes prostituées. Aola et Oholiab. Et comment tout ce que Dieu a fait pour les attirer, pour les retenir. Et comment à chaque fois, elle partait chercher des amours ailleurs. Et l'image de l'immoralité est une image qui est utilisée dans la relation entre Dieu et son peuple quand son peuple s'éloigne de lui. Parce que la parole de Dieu nous dit par exemple que nous sommes, l'Église est l'épouse de Christ. Une épouse est fidèle à son époux. Amen, mesdames. Amen. Glory to God. Il faut toujours répéter ces choses. On ne sait jamais quelle conversation les gens ont eu dans la semaine. Hein? Donc, une épouse est fidèle à son époux. L'Église est l'épouse de Christ. Et de la même façon, dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu parlait de l'idolâtrie de son peuple, il parlait d'immoralité. Est-ce que vous me suivez? Cette femme a donc amené à causer des dégâts durables au sein de la nation et a contribué à ce que Israël se détourne de Dieu, ce qui s'est soldé par la déportation d'Israël. Juda a été contaminé également. Et si vous lisez Ézéchiel 23, vous allez voir où Dieu parle. Est-ce que j'ai une citation pour vous ici? Où Dieu parle du fait que Israël a péché, a été puni, mais que Juda a fait la même chose. Malheureusement. Et dans l'église de Corinthe, par exemple, l'apôtre Paul parle du fait qu'on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Donc, il faut voir les deux côtés ici. Cette femme et son groupe enseignaient des doctrines qui amenaient les gens à s'éloigner de Dieu. Idolâtrie égale impudicité, immoralité spirituelle. Mais il y a aussi l'immoralité physique, n'est-ce pas? Comme j'ai eu à vous expliquer, il est dit que la seule vertu que le christianisme a introduit dans le monde antique, c'est la chasteté. Quand vous lisez les philosophes, vous lisez Aristote, vous lisez Platon, ils ont évoqué beaucoup des vertus que nous avons dans le Nouveau Testament. Ils n'avaient pas les moyens de les mettre en pratique, n'étant pas animés de l'Esprit de Dieu, mais les reconnaissaient comme étant de bonnes vertus. La seule vertu qui, pour le monde antique, était impensable, c'était la pureté sexuelle. Et quand les chrétiens ont débarqué avec ça, c'était « Wow, mais qui ?» On peut comme aujourd'hui, mais qui peut vivre comme ça? Glory to God. Et l'Église était donc confrontée à toutes ces situations de débauche, toutes ces situations d'impureté, toutes ces situations de compromis, et devait donc prendre position. Je vous ai parlé précédemment du fait que dans cette ville, il y avait des collectifs d'artisans, des collectifs professionnels. Eh bien, ces collectifs se réunissaient. Et lors de leur réunion, il y avait parfois la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Lors de leur réunion, il y avait aussi certaines pratiques qui n'étaient pas nécessairement chrétiennes. Alléluia. Et donc, le chrétien doit faire le choix pour dire, est-ce que je vais y participer ou pas? Or, il y a une dimension professionnelle et il y a une dimension personnelle dans cela. Quand les gens vous invitent chez eux et que vous savez qu'ils vont, que c'est en l'honneur de leur Dieu, et qu'ils ont déjà sacrifié à leur Dieu, et qu'ils vont maintenant vous présenter ce qu'ils ont sacrifié à leur Dieu. Parce que cette question de consommation de viande sacrifiée aux idoles était un vrai problème dans l'Église primitive. C'est pour cela, comme je vous ai dit la semaine dernière, que dans Actes chapitre 15, cela fait partie des peu d'instructions données aux Églises issues du monde païen. Le fait de ne pas consommer des viandes sacrifiées aux idoles. Et donc, quand ils faisaient leur réunion dans ces collectifs, ils allaient consommer ces produits, ils allaient aussi se livrer à des pratiques qui ne convenaient pas aux chrétiens. Le chrétien avait donc le choix de dire, je ne vais pas appartenir à ces collectifs. Mais ne pas appartenir à ces collectifs voulait dire aussi probablement être exclu de cette profession, de ce métier. Donc, cela vous touche ou ça compte, comme on dit en anglais? Le porte-monnaie. Donc, il y a un choix à faire. La séparation d'avec le monde qui va avoir des répercussions commerciales, des répercussions professionnelles, des répercussions financières. Et comme disait John Wesley, la dernière partie d'un homme à être converti, c'est son porte-monnaie. Et c'est là où les chrétiens devaient dire, même si ça me coûte financièrement, je ne vais pas participer à cela. Est-ce que vous avez des choses devant vous aujourd'hui qui risquent de vous coûter financièrement si vous affirmez votre foi chrétienne? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des compromis parce que le Seigneur comprend que la société est comme ça. Ce que Jésus leur dit ici, c'est niet. Et cette femme et son groupe enseignaient le fait que ce n'était pas grave. Ce n'est pas grave. On est chrétien, mais on doit vivre. On est chrétien, mais on ne peut pas s'exclure de la société pour autant. On ne peut pas dire, je ne vais pas là-bas, je ne vais pas participer à ça, juste parce que je sais ce que je crois dans mon cœur. Personne ne va vous inviter, enfin, dans la plupart de nos sociétés aujourd'hui, on ne va pas vous inviter pour partager la viande sacrifiée aux idoles. Mais il y a d'autres situations où le compromis, vous serez invité au compromis dans le monde professionnel. Il y a des situations où vous participez, vous travaillez dans une entreprise, vous avez des congrès, et souvent le soir, il y a des divertissements. Et ces divertissements ne sont pas toujours bibliques. Et beaucoup de chrétiens vont y aller en disant, oui, mais c'est pour mon travail, je ne peux pas dire que je n'y vais pas. Je vais être mal vu. Vraiment. Il faut prendre position. Et Jésus reprend cette femme parce qu'avec ses doctrines, elle conduisait les gens à participer dans des activités de la société qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Et il y a des fois, il faut prendre position. Et nous devons prendre position. Ce tout n'est pas permis parce que c'est professionnel, parce que c'est au travail, donc on me demande de le faire. La petite jeune à qui on demande de s'habiller d'une certaine façon, un peu trop aiguilleuse, parce que comme ça, ça attire les clients. Et moi, il faut dire non, je suis chrétienne, je ne vais pas porter ces choses. Ou d'accompagner les clients le soir, juste au restaurant, mais en étant gentil, sans aller trop loin, mais en étant gentil. Vous savez ce que c'est, étant gentil. Mais je n'ai pas le choix, c'est pour mon travail. Vous avez le choix. Et Jésus nous demande de prendre position. Ça, dans notre génération, c'est manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est participer dans des choses qui ne correspondent pas au cœur de Dieu, parce que c'est comme ça que ça se passe dans notre société, et que si nous ne le faisons pas, ça aura un impact négatif sur nous. Eh bien, advienne ce qui adviendra. Que ce soit sur le plan personnel. On va sortir ensemble, mais on va aller voir un film qu'un enfant de Dieu ne devrait franchement pas voir. Oui, mais on est tous ensemble. Je ne peux pas dicter aux autres ce que nous devons aller voir. Je ne peux pas leur imposer. Tu ne peux pas leur imposer, mais tu peux te soustraire à cette sortie. Oui, mais ils vont tous penser que... Et les gens vont dire, et les Jézabel de notre génération vont dire, oui, mais il faut les gagner. On ne peut pas être totalement séparés si on veut les gagner. Donc pour les gagner, il y a des fois, il faut les accompagner, vraiment. Il n'y a pas d'autres lieux où on peut rencontrer les gens que dans les lieux de débauche. Oui, mais c'est une fois par an, tous les représentants commerciaux vont ensemble aux Folies Bergères. Je ne peux pas dire moi que je n'y vais pas. Tu peux et tu devrais. Et donc, se livrer à des pratiques qui ne correspondent pas au cœur de Dieu, tout simplement parce que c'est comme ça que ça se passe dans notre génération et que nous ne pouvons pas dire nous sommes chrétiens, nous ne le faisons pas. Nous pouvons le dire, nous devons le dire. Alléluia. Il y a un avocat américain qui est très célèbre, qui est reconnu comme l'un des 10 meilleurs trial lawyers aux États-Unis. Cet homme est chrétien et il est même prédicateur à mi-temps. C'est quelqu'un qui détonne complètement dans son milieu. Non pas uniquement parce qu'il a la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi, mais parce qu'il est très ouvert sur sa foi. Parce qu'il est très... Il ne cache rien. Beaucoup de chrétiens le cachent. Oui, mais je crois, mais c'est personnel. Surtout ici en France. C'est des questions... Non, c'est personnel. Alors vraiment, vous pouvez creuser. Vous n'allez jamais toucher la partie chrétienne. C'est tellement personnel, t'es totalement enfoncé. Jusqu'à devenir invisible. Cet homme est chrétien. Il le dit haut et fort. Depuis l'âge de 13 ans, je crois, il enseigne tous les dimanches dans son église. Il enseigne la Bible. Il enseigne la parole de Dieu. Il enseigne même sur Internet. Là, ça, c'est ne pas cacher, se cacher, c'est vraiment ne pas se cacher. Et il doit être un des avocats les plus riches aux États-Unis. Chaque année, il fait une grande fête de Noël où il invite une méga fête de Noël qui coûte plus de 500 000 dollars. Et il invite aux alentours de 7 000, 8 000 personnes. Et ils ne servent pas une goutte d'alcool. Lorsque je parle de 7 000, 8 000 personnes, je parle de tous les juges, les avocats, enfin... Les clients, et les clients, c'est les grandes entreprises, les multinationales, celles qui l'ont attaqué, celles avec qui il travaille. Et des familles, et des enfants, il met une grande fête extraordinaire aussi pour les enfants, beaucoup de jeux, etc. Comme en mini Disneyland pour les enfants. Juste pour bénir sa société. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne sert pas d'accord.
Alors nous, on dirait, oui, mais il y a différentes personnes qui viennent, donc il ne faut pas, bon. On va juste demander le permis, s'ils ont moins de 10 ans, on ne va pas leur en donner. C'est possible dans notre génération de tenir ferme dans sa foi, de réussir dans le métier dans lequel Dieu nous a placés, et je dis bien Dieu nous a placés, d'être parmi les meilleurs, d'être reconnus parmi les meilleurs, et de ne pas faire de compromis. Malheureusement, la majorité de chrétiens n'y arrivent pas parce qu'ils font très vite les compromis. Ils sont vite. Dès le départ, ils se disent, c'est pas possible. Donc, ils font les compromis et ils n'arrivent jamais là où Dieu veut les amener. Et le peu qu'ils ont, ils estiment que oui, mais s'ils n'avaient pas fait de compromis, ils ne seraient pas là. Mais qu'est-ce que tu en sais si tu avais suivi le plan de Dieu? Et c'est ça le problème dans l'église de Thyatira. Et ce compromis est allé tellement loin que les gens sont allés dans les profondeurs du péché, à l'intérieur de l'église. Et après, les gens perdent toute conscience de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout devient normal. Oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas comme ça. Et ce que les gens vont pleurer, beaucoup d'entre nous allons pleurer après, parce que nous allons nous rendre compte quand ce sera devant Dieu qu'on est passé complètement à côté. Parce qu'on n'a pas eu suffisamment de foi en Dieu. On n'a pas eu suffisamment d'engagement envers Jésus pour dire Jésus d'abord. Ma foi en Jésus d'abord. Le reste vient après. Je ne vais pas sacrifier mes convictions à l'autel de l'argent. Amen. Ni pour garder tel ami ou tel ami ou tel ami. L'ami qui va m'entraîner en enfer, il peut y aller tout seul. Je lui fausse compagnie. Alléluia. Et l'enseignement de cette femme amenait les gens dans le compromis, amenait les gens dans le péché, leur disait que ce n'est pas grave, pourquoi pas, on peut faire ça, on peut vivre comme ça, tout en étant à l'intérieur de l'église. Et l'église en était consciente et l'église a laissé faire. Et Jésus a dit, j'ai ça contre vous. Et les gens vivaient dans l'immoralité, l'immoralité spirituelle, l'immoralité réelle. Et on excuse tout, parce que la société est comme ça. Nous avons le choix de dire en tant qu'Église, est-ce que nous allons tout accepter et tout excuser? Paul a écrit à l'Église de Corinthe, le passage que j'ai commencé à vous lire. En Corinthiens 5, le verset 1, verset 2, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Quand les chrétiens commencent à pécher, ils pêchent. Ah, ils vont vraiment très loin. Et vous vous assurez, vous dites, mais non, ce n'est pas vrai. Elle a fait quoi? Wow! Mais je suis chrétien, Jésus m'aime. Je n'ai jamais dit que Jésus te hait. Mais est-ce que toi, tu l'aimes? C'est ça la question. Au verset 2, il dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil. » J'ai avancé très vite parce que ce que Jésus dit concernant cette femme, et c'est lié à ce que l'apôtre Paul dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. » Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous, que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il y a un moment donné où l'Église doit prendre une décision et ne pas continuer à laisser les gens faire n'importe quoi en disant « je suis chrétien » au sein de l'Église locale. Il y a un moment où il faut dire « stop ». Et il y a une raison pour cela. Jésus dit « le jugement maintenant intervient ». Il y avait encore le temps pour se repentir à Pergame. Et ici, pour Jézabel, c'est allé trop loin. C'est le temps du jugement. Les pieds comme de l'airain ardent. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Dans certaines traductions, vous avez vu un lit de malade, en d'autres termes. L'affliction et la maladie. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moi qui ne se repens de leurs œuvres. Vous vous souvenez encore le fait que nous parlons du fait que l'adultère est moral, l'affidèle est spirituel et aussi physique. L'immoralité plutôt. Je vous parlais d'Ézéchiel 23. Je vous encourage à le lire. Il y a aussi un passage en Jérémie 3 où Jérémie dit ceci. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, c'est Dieu qui parle. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. C'est Dieu qui parle. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Dieu tend la main et invite la personne qui s'est éloignée à revenir vers lui. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il a attendu pour qu'elle se repente. Elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Mais elle n'est pas revenue. Jérémie 3, 6 à 7. Et elle n'est pas revenue. Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Nous allons voir que Judas va être contaminé par la suite. A été contaminé par la suite. Lorsque nous laissons les choses se passer au sein de l'Église et que nous ne faisons rien, les autres sont contaminés. Et c'est ce qui se passe dans cette Église de Thyatire. Jésus leur reproche le fait d'accepter ce degré de pourriture au sein de l'Église et de ne rien faire. Comme l'apôtre Paul a reproché à Corinthe d'accepter l'impudicité et de ne pas avoir ôté la personne qui a commis l'acte du milieu d'eux. Et ce qui est triste ici, c'est que Jésus a dit qu'elle a refusé de se repentir. Elle sera jugée et elle sera punie. Et les gens qui sont avec elle aussi, c'est quand il parle de ceux qui commettent adultère avec elle, et plus tard aussi lorsqu'il parle de ses enfants, il s'agit de tous ceux qui sont dans son groupe. Et qu'est-ce qu'il y a pour tous? C'est le jugement. Nous ne voulons pas avoir à subir le jugement. Je ne sais pas pour vous, je ne veux pas avoir à subir le jugement. Moi, je veux, déjà, qu'il n'y ait rien qui appelle le jugement. Mais s'il y a quoi que ce soit, être prompte à me repentir. Prompte à se repentir. Non pas continuer, s'entêter dans le péché. Parce qu'après, il y a le jugement. Il y a des gens qui disent, oui, dès qu'on est chrétien, c'est fini, il n'y a pas le jugement. Jésus parle aux gens au sein de l'Église. Ah, c'est cette Église, ils ont beaucoup d'amour. Parfois, trop d'amour. Comme il les a, je vous dis, je ne mets pas sur vous. Donc, il parle à tous les autres. Donc, il y a d'autres personnes dans cette église qui ne sont pas impliquées dans ça. Alléluia. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Glory to God. Et qu'est-ce qu'il dit aux autres? Il dit aux autres, vous continuez comme vous êtes. Je ne veux rien vous imposer, rien, non. Vous continuez comme vous êtes. Vous n'avez pas participé à ces bêtises, donc continuez comme vous êtes et tenez ferme jusqu'à ce que je revienne. Dites à votre voisin, tiens ferme jusqu'à ce que Jésus revienne. Tiens ferme. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Tiens ferme. Ne te laisse pas corrompre. Tiens ferme. C'est ce qui est triste, c'est que la nature humaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on parlait tout à l'heure des gens calcifiés et fossilisés et des nouveaux qui sont excités. Et il y a beaucoup de gens qui se laissent entraîner dans le mal, qui se laissent contaminer par ce qui n'est pas bon. Et ils vont voir quelqu'un se dévier du Seigneur, devenir laxiste dans ses mœurs ou dans son style. Ils vont dire, oui, mais bon, le frère en tel, hein, écoute, on attend que l'éclair tombe sur sa maison et si ce n'est pas le cas, pas de foudre, il semble avoir encore ses deux jambes. En plus, il a eu un nouveau poste, là, ben, ça va, moi aussi je peux faire la même chose. Et Jésus a dit qu'il a attendu. Ce n'est pas tout de suite qu'il a jugé cette femme, il a attendu. Mais quand le jugement tombait. Nous devons exceller dans l'imitation du bien, pas dans l'imitation du mal. Imitez ceux, dit l'apôtre Paul, qui vivent selon l'exemple que vous avez vu en nous. Parce que, et dit, je le dis avec larmes, beaucoup vivent comme des ennemis de la croix au sein de l'Église. Fou! Je vais imiter les gens qui vivent comme l'apôtre Paul. Nous avons aussi la même promesse qu'avant. Enfin, nous avons aussi une promesse comme avant. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Holy Spirit, yes! J'étais dernièrement avec une amie de 30 ans. Et je lui disais que j'étais vraiment contente. J'étais encouragée. Je savais quand elle a commencé à marcher avec le Seigneur, c'était plus ou moins à la même époque. Je lui ai dit à la même époque, je lui ai dit, je suis vraiment contente de te voir. Après toutes ces années, continuer à marcher avec le Seigneur. Elle a dit, mais toi aussi, hein? Alléluia. Nous allons continuer dans 30 ans encore, continuer dans 30 ans jusqu'à ce que Jésus revienne.
Amen.
Oh, God is so good. Quand je me suis convertie, il y a des gens qui pensaient que ça n'allait pas durer. Ils estimaient que j'étais trop mondaine, trop pantello, ça n'allait pas marcher. Ça a duré.
Amen.
Certains d'entre vous qui n'étiez pas nés quand je me suis convertie. Jesus! Yes! Jusqu'à la fin! Seigneur, ta grâce pour tenir jusqu'à la fin! Woo! Stop it! Oh, God is so good. Celui qui vaincra, dit je vaincrai.
Je vaincrai.
Je vaincrai. Oh, je vaincrai. Alléluia. Si vous m'aviez vu au début de ma conversion, vous n'auriez pas pensé que je serais là aujourd'hui. Ah, oh, tout ce que je savais, c'est que j'aimais Jésus, mais tout le reste. Alléluia. God is good. Vous allez vaincre. 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 Alléluia. Oh, si vous saviez. Dans 20 et quelques années de vie chrétienne, on a eu le temps de voir toutes sortes de choses, d'être confronté à toutes sortes de situations, toutes sortes de personnes, beaucoup d'occasions de reculer, beaucoup d'occasions de renégocier, beaucoup d'occasions de regarder Philippe le païen, beaucoup d'occasions de dire, c'est peut-être pas là, no, that way, God is good. Beaucoup d'occasions de faire des compromis. Oh, Jesus. Beaucoup d'occasions de manger des viandes sacrifiées aux idoles. De gagner de l'argent sans être agréable à Dieu. Beaucoup d'occasions de tricher. Parce que tout le monde le fait. On ne peut pas faire des affaires en étant honnête. God is so good. Nous allons vaincre. Et Dieu donne la promesse que nous allons régner avec lui. Nous savons qu'à la fin des temps, nous allons régner avec Christ. Et Jésus le dit encore ici. Je donnerai autorité sur les nations. Mettez ça sur une balance. Le compromis actuel, le péché actuel, l'autorité sur les nations. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on cesse de penser à cette instant gratification. N'est-ce pas? Maintenant, tout de suite dans ma poche. On fait des tests, on dit aux enfants, tiens, je peux te donner un bonbon maintenant. Ou si tu attends une heure, je vais te donner trois bonbons. Une heure, trois bonbons. Un bonbon maintenant. Non, je prends le bonbon maintenant. Le plaisir immédiat. Oh, s'il l'attendait, dans une heure, il aura trois bonbons. Mais c'est trop loin pour lui. Il veut le bonbon maintenant. Donc, il prend le bonbon maintenant. Nous sommes comme ça. Je veux le bonbon maintenant. Donc, ça veut dire qu'on doit faire des choses pas très chrétiennes. Mais maintenant. Jésus a dit, si vous tenez jusqu'à la fin, vous aurez autorité sur les nations. Et après, il cite le psaume 2 sur l'action du Messie. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus. Jésus. La promesse, c'est Jésus lui-même. Glory to God. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui va entendre ce matin? Qui va s'examiner aujourd'hui? Qui va s'examiner cette semaine? Pour faire le tour de sa vie. Pour dire, est-ce que je suis en train de suivre les doctrines de Jézabel? Doctrines de Jézabel qui ont amené la pollution en Israël. Et cette nation a fini par être déportée. Et beaucoup de ces gens, on n'en a plus de la trace aujourd'hui. C'est pour ça que certains parlent des 10 tribus perdues d'Israël. Judas aussi a été déporté. Ils sont revenus de la captivité. Ceux qui vont faire la lecture de l'Ancien Testament l'année prochaine, on va voir tout ça ensemble. Est-ce que c'était bon cette année? Est-ce que c'était bon?
Alléluia.
C'est merveilleux de connaître la parole de Dieu. Et même quand Judas est revenu de la captivité, tous ne sont pas revenus. Malheureusement. Et tout cela parce que l'idolâtrie a été introduite. C'est très dangereux pour une église de permettre le péché en son sein. C'est dangereux pour l'église de tolérer l'immoralité. C'est dangereux pour l'église de tolérer le compromis. C'est dangereux. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait à l'église de Corinthe, il a dit, « Ne savez-vous pas qu'on peut de levain faire lever toute la pâte ?» On peut de levain faire lever toute la pâte, lorsqu'il parlait de l'impudicité au sein de l'église. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On peut de levain faire lever la pâte. On peut de péché que vous tolérez va gangréner toute l'église. N'est-ce pas? Et nous avons intérêt à ne pas être de ceux dont les vies font chuter les autres. À ne pas être de ceux dont le comportement et l'attitude amènent d'autres personnes dans le compromis et dans le péché. N'est-ce pas? Et ce que nous constatons donc, c'est que lorsque Jésus voit ce qui est mauvais, il nous le dit. Mais lorsqu'il voit ce qui est bon, il nous le dit aussi. C'est merveilleux ça. Et avoir ce cœur qui est enseignable, qui non seulement accepte la correction, mais accepte le changement nécessaire.